Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Radio France Internationale, c'est Afrique Matin. Il est 4h30 ici à Paris, une heure de plus à Goma.
Vincent Dublange.
C'est parti pour une demi-heure d'infos largement africaines sur la radio du monde. On commence par le journal, bien sûr, et le point sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 est dans une partie de la ville de Goma avec son allié rwandais, mais des combats se sont poursuivis hier. Les habitants sont terrés chez eux, sans eau, sans électricité courante. Il y a des morts civiles, 17 au moins selon un bilan hospitalier, 5 aussi du côté du territoire rwandais. Les structures sanitaires sont débordées à Goma. La résistance se poursuit, assure-t-on à Kinshasa. Le président Tshisekedi doit s'exprimer, mais aucune date pour l'instant communiquée. Les États africains, eux, gardent le silence. Décryptage à suivre également dans ce journal. Nous irons aux Comores. La présidence fait de l'explication de texte après les propos d'Azali Assoumani la semaine dernière sur sa succession. Non, il n'y a pas de projet de succession filiale ou dynastique, nous dit la présidence comorienne. On parlera bien sûr du tirage au sort de la CAN qui aura lieu en fin d'année au Maroc. Et nous étions hier à Rabat pour le tirage au sort. Olivier Pron nous en parle dans 10 minutes. Situation toujours aussi tendue, violente, incertaine. RFI tente de faire le point le plus précis et complet dans la mesure du possible à Goma. Les combats entre certains éléments de l'armée congolaise, les milices alliées Wazalendo d'un côté et le groupe armé 23 et les forces spéciales rwandaises de l'autre. Ils se sont poursuivis hier dans plusieurs endroits de la ville, notamment près de l'aéroport international de la capitale du Nord, Kivu, près de la frontière avec le Rwanda aussi. Il est impossible de dire qui contrôle quoi exactement. Le M23 est présent dans plusieurs endroits de Goma. Des tirs d'armes automatiques et d'armes lourdes parfois étaient entendus hier dans la journée, mais cela semblait baisser en intensité avec l'arrivée de la nuit. Côté humain, l'agence France Presse parle de 17 morts au moins chez les civils et 367 blessés. Bilan très provisoire et partiel recoupé auprès des hôpitaux de la capitale du Nord Kivu. 1 million d'habitants, 700 000 déplacés à Goma. Ils sont depuis dimanche soir coincés, isolés dans les quartiers. Les centres de santé, notamment l'hôpital provincial du Nord Kivu, sont saturés. Guillaume Thibault.
Les balles sifflent, mais les soins sont effectués. Face à l'afflux de blessés, les médecins n'ont pas le choix. Ils doivent faire le tri, donner la priorité à ceux qui peuvent être sauvés, comme l'explique cet urgentiste.
Malheureusement, nous avons pu enregistrer beaucoup de cas jusque là. On essaie un peu de faire ce qu'on peut, d'étrier donc ceux qui peuvent être encore sauvés. C'est comme ça.
Faute d'ambulance, les blessés, notamment de nombreux enfants, sont amenés à l'hôpital par leur famille.
Je tiens à signaler que toutes les blessures, en tout cas, sont des blessures par balle. Par exemple, il y a un bébé de 2 mois qui a été touché, il y a une adolescente aussi. L'un de nous, d'un de nos camarades qui a été même touché, on vient à peine de le stabiliser. En tout cas, c'est catastrophique.
Ce médecin lance un appel à l'aide et à l'arrêt des combats pour faciliter l'accès aux soins.
Nous lançons juste un appel à la communauté internationale, au gouvernement congolais, afin d'intervenir. Tout ce que nous voulons, c'est revenir à la paix parce qu'on ne saurait pas soigner. Tout se blesser, tout le monde craint à sa vie.
Malgré le manque de personnel, de matériel, notamment de poches de sang pour les transfusions, l'équipe de l'hôpital provincial du Nord Kivu enchaîne les actes de chirurgie sans discontinuer depuis dimanche soir.
Du côté de la frontière avec le Rwanda, les deux postes de petites et de grandes barrières étaient fermés. Ils n'ont laissé passer que des employés de l'ONU qui n'avaient pu prendre les avions de rapatriement. Le Rwanda parle de civils tués du côté rwandais de cette frontière à Gisenyi. 5 morts et 35 blessés selon les autorités de Kigali qui continuent de parler de menaces sérieuses et de la nécessité selon elles de prendre, je cite, des mesures défensives. À Kinshasa, le président congolais, lui, a présidé une réunion de haut niveau avec les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, la Première ministre, le procureur général près la Cour de cassation. La réunion a fait état d'une résistance des troupes gouvernementales et de leurs alliés Wazalendo face au groupe armé du M23 qui se présentait comme nouveau maître de Goma lundi matin. Écoutez Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale congolaise, nous résumer la réunion d'hier autour de Félix Tshisekedi dans la capitale congolaise et donc la manière dont les autorités congolaises envisagent la situation.
C'était une évaluation de la situation qui prévaut particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour restaurer l'autorité de l'État. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coup pire d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie de sortie des crises qui intègre la question, le volet politique et le volet diplomatique. Enfin, nous vous informons que le président de la République va s'adresser à la nation.
Et pour l'instant, on n'en connaît pas la date. Propos de Vital Kamerhe recueillis au micro RFI à Kinshasa de Pascal Moulégois. Quelle sortie de crise diplomatique? Y en a-t-il une? Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, présidé par la Côte d'Ivoire, se réunit en tout cas à la mi-journée aujourd'hui. La communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, présidée par le Kenya, compte, elle, toujours également se réunir et mettre autour d'une table, en tout cas, si possible, les présidents Tshisekedi et Kagame. William Ruto, le chef de l'État kényan, l'a redit hier depuis Nairobi. Il évoque un sommet demain, mercredi, mais pas de confirmation, ni de Kinshasa, ni de Kigali. Dans ce contexte, le relatif silence de l'Union africaine interroge. La dernière prise de parole du président de la commission de l'UA, c'était il y a 3 jours, un communiqué jugé pour le moins déroutant par plusieurs observateurs. Bien qu'appelant à la cessation immédiate des hostilités, Moussa Faki Mahamat ne nommait pas le M23 ni ne mentionnait l'implication de l'armée rwandaise face à une situation mouvante. À l'issue incertaine, les États africains semblent choisir l'attente et la prudence à Militulay.
Pour le journaliste camerounais Jean-René Meva Mougou, spécialiste des relations continentales, comme souvent, bien que parfaitement conscient de la gravité de la situation, les États africains se cachent derrière le principe de non-ingérence et choisissent d'attendre. Attendre de voir comment le rapport de force va évoluer sur le terrain et ce que donneront les initiatives diplomatiques régionales. Personne n'osera rien dire au Rwanda ou encore à l'Ouganda, ajoute le journaliste, par peur des conséquences, notamment sur les liens bilatéraux entre pays. Sur le plan diplomatique, le président rwandais Paul Kagame a beaucoup d'influence sur l'Union africaine qu'il a présidée de 2018 à 2019. Pour Richard Moncrief, directeur Afrique centrale de International Crisis Group, la diplomatie rwandaise a réussi, à force de travail, à semer la confusion dans l'esprit des diplomates et a diffusé sa grille de lecture de la situation dans l'Est congolais. Mais avec rapidité ces derniers jours, l'analyste ajoute que la réalité s'est imposée à tous, le rapport de force est établi. Pour Richard Moncrief, le message de Kigali adressé à Kinshasa est clair. Rien ne peut pour l'instant se faire à Goma sans l'aval du Rwanda.
Et je vous signale notre invité tout à l'heure dans 2 heures sur l'antenne, Christophe Lutundula, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, actuel député. Il était au micro de Christophe Boisbouvier.
RFI à Moroni, 103 FM.
On revient maintenant sur ce discours du président de la République des Comores la semaine dernière sur l'île de Moélie. Discours dans le cadre de la tournée de remerciements d'Azali Assoumani après les législatives. Le chef de l'État comorien évoque alors, lors de ce discours, donc la semaine dernière, sa succession dans 4 ans. Il évoque la famille, un fils. Polémique depuis, la présidence organisait donc hier une conférence de presse pour dénoncer, je cite, une interprétation erronée et intentionnelle par certains détracteurs. Non, dit-on, le fils du président, Nour El Fath, qui est secrétaire général du gouvernement et qui vient d'être élu député, n'est pas le successeur désigné de son père. Abdallah Mzembaba a assisté au point presse.
Lors de cette conférence de presse, Mahamoud Salim Hafi, secrétaire général adjoint du gouvernement, a tenu à porter des précisions sur la traduction faite de la déclaration d'Azali Assoumani.
Le chef de l'État, en aucun moment, n'a jamais dit qu'il allait léguer le pouvoir à son fils. Il a dit à un fils. Et surtout, il avait parlé de 3 familles, famille politique, famille gouvernementale et famille nucléique. Il se basait dans le cadre de la famille politique en disant que, en 2029, dans le cadre du parti, un enfant du parti pourra aller briguer le suffrage universel du peuple comorien.
Une version qui n'a pas convaincu une partie importante de l'opinion, mais que le parti au pouvoir, la CRC, maintient malgré tout.
Il y a eu une désinformation. Faire dire quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas dit, on est dans une république où il y a la transition qui se fait à chaque 5 ans, il y a élection. D'autant plus qu'en 2029, le tour échoua à l'île d'Anjouan et que Nour El Fatou Azali n'est pas enjoiné. Non seulement il n'est pas enjoiné, mais il n'a pas les 10 ans requis dans la constitution qu'il a habité à Anjouan.
Présent à cette conférence, Nour El Fatou Azali n'a pas prononcé un mot, et ce malgré une question qui lui était directement adressée. Un temps évoqué en interne par des sources du pouvoir, les rumeurs de plainte contre le journaliste ont été démenties par les conférenciers Abdallah Mzembaba Moroni. RFI.
Le Premier ministre français est favorable à une restriction du droit du sol à Mayotte. Mayotte qui accueille des migrants venus des autres îles de l'archipel des Comores. Quand les enfants naissent à Mayotte, ils obtiennent la nationalité française. L'extrême droite et la droite française veulent mettre fin à ce droit dans l'île. François Bayrou semble donc leur faire cette concession alors que le Premier ministre est en plein jeu d'équilibriste pour faire voter un budget en France. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Merci de votre fidélité sur le 96 FM à Tana et à Majunga. À Madagascar, on parle ce matin de ces arrestations en série sur fond de trafic d'espèces sauvages. Les autorités malagasses annoncent avoir arrêté 19 personnes, dont 3 étrangers, 2 Comoriens et un Tanzanien. Interpellations à plusieurs endroits de la grande île ces 3 dernières semaines. 2 ressortissants chinois ont également été arrêtés en Tanzanie. Tous seraient impliqués dans un vaste réseau de revente de tortues radiata, espèce endémique en très grand danger d'extinction. 2700 animaux ont été sauvés. Ils étaient, Sarah Teto, prêts à être exportés en Asie du Sud-Est.
C'est un coup de filet sans précédent pour le pays, a annoncé hier le ministre de l'Environnement malgache, Max Fontaine.
C'est la première fois qu'on arrive en très peu de temps à attraper plusieurs maillons de la chaîne du réseau. Il y a par exemple des collecteurs, des transporteurs, le commandant d'une vedette, jusqu'aux exportateurs qui avaient la marchandise prête à être exportée. Et on a réussi à remonter tout le réseau.
Un réseau bien organisé qui dispose, selon les premiers éléments de l'enquête, de gros moyens financiers, humains et logistiques. Des véhicules neufs, un bateau rapide et des armes ont été saisies. Le ministre salue la collaboration entre les différents ministères, mais aussi, et c'est la grande nouveauté, la coopération avec ses partenaires internationaux qui a permis les arrestations à l'étranger.
Au mois de mai 2024, on a créé une task force internationale, une plateforme d'échange avec Interpol, avec UNODC, avec USFWS, etc., où donc on échange des informations très rapidement et en fait avec des outils technologiques plutôt avancés, qu'on a pu faire certains liens, des preuves bancaires, etc. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à attraper le réseau jusqu'en Tanzanie.
Max Fontaine met en garde ceux qui minimiseraient ce type de trafic.
Souvent, il y en a qui disent « oui, c'est juste des tortues ». Ces réseaux-là sont des réseaux qui vont bien plus loin que le trafic de tortues. C'est des réseaux de blanchiment d'argent. Ce sont aussi des réseaux qui savent faire d'autres types de trafic.
Les 19 personnes arrêtées sur l'île ont toutes été incarcérées en attendant leur procès. Elles sont poursuivies pour trafic d'espèces sauvages et certaines pour blanchiment de capitaux. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de foot. Et la Coupe d'Afrique des Nations de foot qui aura lieu en décembre prochain et en janvier 2026 au Maroc. Les Comores sont dans le groupe du Maroc avec le Mali et la Zambie. Groupe difficile, reconnaît Stefano Cousin, le sélectionneur des Sélacantes. Tirage au sort qui avait lieu donc hier à Rabat au Maroc. La République démocratique du Congo de son côté est avec le Sénégal, le Bénin, le Botswana. Tous les détails sur notre site RFI.fr. Olivier Pron, vous avez particulièrement remarqué la poule F avec un duel attendu.
Alors oui, dans cette poule F, il y a les Gabonais et les Mozambicains, qu'il ne faut pas oublier. Mais à l'issue de ce tirage au sort, tout le monde n'en avait que pour cet affrontement historique du continent. Côte d'Ivoire, Cameroun, lauréat de 3 des 5 dernières éditions. Et Emers Faye, sélectionneur détonnant, tempère.
Les gens parlent de ce match contre le Cameroun parce que Côte d'Ivoire-Cameroun, ça a toujours été des matchs qui sont chauds. Mais nous, on est des compétiteurs, on n'est pas juste là pour battre le Cameroun, on est là pour gagner la CAN. Et pour gagner la CAN, il faut se préparer pour jouer contre toutes les équipes.
Côté Camerounais, en lions indomptables qu'ils sont, même pas peur, explique Marc Brice, qui passe quelques messages au passage.
Ouais, surtout, il y a une histoire contre deux pays, alors je suis en courant de ça. On n'a pas peur de rien. On n'a pas peur de Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors, la seule chose, la concentration est de moi ou nous-mêmes et de pas de l'adversaire.
Et une fois la confrontation a priori évacuée, un retour au discours fondamental, bien se préparer. Les Ivoiriens ont un titre à conserver, jamais facile.
Toutes les fois qui sont difficiles, la première fois aussi, c'était très 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 difficile parce que c'était ma première et si ça passait pas, bah peut-être que ma carrière n'aurait jamais démarré. Donc que ce soit la première ou la cinquième ou la sixième, c'est difficile. Donc nous, on va bien se préparer pour réussir à relever ce challenge.
Début du challenge donc le 21 décembre prochain. Olivier Pron, Rabat, RFI.
Un mot du mondial de hand, la quart de finale Égypte-France, c'est ce soir, 20h temps universel.
Afrique Matin sur RFI. Vincent Dublange.
3h44, TU. À la seconde près sur Radio France Internationale. On est à Madagascar dans les prochaines minutes. La farine de Nutrisaz qui permet à de nombreuses familles défavorisées de la grande île de survivre. On en parle. Le modèle Nutrisaz va bien au-delà de ça. C'est une vraie entreprise à vocation sociale qui peut inspirer. Rendez-vous dans 5 minutes pour en parler. Rentrée perturbée, mais c'était annoncé à Mayotte hier. Les scolaires n'ont pas tous repris le cartable. 44 écoles notamment sont toujours trop endommagées par le passage du cyclone Chido. Il y a un mois et demi, on en parle dans 10 minutes. Juste avant, les matières premières. Le prix de l'Arabica, c'est un peu fort de café.
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
La capitale du Tchad, où le grand format de la rédaction Afrique prend ses quartiers ce matin. Je vous emmène au théâtre pour une pièce originale, une création en résidence, comme on dit dans le jargon théâtral, c'est-à-dire créée au fil de l'eau depuis début décembre à N'Djamena. Les dernières répétitions ont eu lieu hier. Et ce soir, ce sera la grande première. Que raconte donc cette pièce? Elle entend brosser rien moins que l'histoire du Tchad de la conquête coloniale française à nos jours et cette 5e République sous l'ère Mahamat Déby. Olivier Monodji s'est glissé dans les coulisses reportage.
S'il vous plaît, camarades, collègues, tout le monde...
C'est sous une tente dressée dans un domicile privé de N'Djamena que l'on peut entendre les artistes comédiens, balafonistes et tamtamers répéter leurs mouvements. Avant la colonisation, le pouvoir est entre les mains de puissants guerriers, de détenteurs d'armes. C'est en 1891 que la France entre au Tchad et organise 3 expéditions militaires contre l'esclavagiste Rabat. Samuel est l'un des acteurs principaux. Il parle du premier gouvernorat.
En 1938, le premier gouvernorat du Tchad est confié à un Français, Guyane Félix Eboué. 2 ans plus tard, en 1940, suite à l'occupation de la France par le Wehrmacht, il sera le premier gouverneur français à répondre à l'appel lancé depuis Londres par le général de Gaulle pour la France libre. Et c'est du Tchad que partira la colonne Leclerc pour une remontée triomphale jusqu'à Paris et Strasbourg pour la libération de la France.
Proclamé république le 28 novembre 1958 et indépendant le 11 août 1960, le Tchad est secoué par des mouvements de rébellion et connaît plusieurs coups d'État. Pour Mariam Mayumbila, présidente de la compagnie et autrice de la pièce, l'important est de faire découvrir l'histoire du Tchad à la jeune génération.
Ça a été très difficile, il fallait beaucoup de recherches. Par exemple, l'accord de Kinshasa, je n'ai pas pu l'avoir jusqu'à nos jours. C'est peut-être des choses qui vont manquer. Et c'est le plus beau cadeau de ma vie et c'est peut-être le bouquet que je pose à la fin de ma carrière artistique et culturelle.
La particularité de la mise en scène réside dans l'assemblage d'un texte, de musique et de chœur. Oumarou Aboubakir Betodi, le metteur en scène, est venu du Niger.
Déjà qu'il faut souligner que ce n'est pas une pièce de théâtre traditionnelle. Et l'autre aspect, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. Je peux dire que c'est un défi, ne connaissant pas de façon profonde l'histoire du Tchad. C'est agréable toujours de découvrir l'inconnu.
La marche du Tchad, de la période coloniale à la 5e République. 40 acteurs pour 1h30 de spectacle, en représentation dans les 10 arrondissements de la capitale dans les jours à venir. Olivier Monodji, N'Djamena, RFI.
Et une représentation de cette pièce, La Marche du Tchad, de la période coloniale à la 5e République par la compagnie Kadja Kossi, a lieu ce soir dans la grande salle de l'Office national des médias audiovisuels, l'ONAMA, N'Djamena. Un dossier Afrique Éco à Madagascar, dans une minute. Mais d'abord, on brosse à grands traits l'actualité internationale de ce mardi 28 janvier 2025. Israël qui a finalement ouvert hier le corridor de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux. C'est une marée humaine de déplacés qui a commencé à regagner le nord du territoire palestinien enclavé, dévasté par plus d'un an de guerre. D'après le gouvernement du Hamas, ce sont pas moins de 300 000 personnes qui sont passées sur la seule journée d'hier. RFI était reportage sur place dans le journal de 4h temps universel. Dans 10 minutes. On parlera aussi de la Colombie qui a finalement envoyé 2 avions ce lundi pour rapatrier les migrants colombiens expulsés par les autorités américaines. Conclusion d'une journée de bras de fer à distance que l'on va vous raconter entre Donald Trump et Gustavo Petro, le président colombien. Et puis, la situation bien sûr en RDC à Goma, on en parlait dans le journal. La journée hier marquée par des combats à l'intérieur de Goma, la capitale du Nord Kivu. Affrontement entre l'armée congolaise et ses alliés et les hommes du M23 soutenus par le Rwanda. On compte ce matin au moins 17 morts et plus de 360 blessés civils. Cette nuit, les États-Unis ont pris position. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, dit s'être entretenu avec le président congolais, Félix Tshisekedi. Il condamne l'attaque du M23 sur Goma. Le dossier Afrique, économie, la vie ici, les idées à partager. Nous sommes à Madagascar pour décrypter pièce par pièce ce modèle qui fonctionne, celui de Nutrizaz, entreprise sociale qui existe depuis 12 ans maintenant. On vous en a parlé à plusieurs reprises sur la radio du Monde. Elle vend une farine très nutritive pour les enfants. On a entendu les témoignages sur RFI de bénéficiaires de Nutrizaz. Mais quel est donc le modèle économique derrière ? 36 000 rations de bouillie chaude distribuées chaque jour dans les bidonvilles des grandes villes. Sarah Teto nous explique.
C'est par un cri reconnaissable que la vendeuse de bouillie Koubaïn avertit les riverains de ce bidonville de la capitale de son passage imminent. L'employé de Nutrizaz, Zaz signifiant enfant en malgache, déambule d'un pas vif d'une ruelle à une autre pour vendre un maximum de rations de la bouillie qu'elle a préparée aux aurores. Comme elle, ils sont près de 200 animateurs à assurer quotidiennement la distribution de la farine fortifiée dans l'île.
Tous les animateurs de Nutriza sont des salariés, dont 75% sont des femmes issues des quartiers vulnérables.
Un modèle inclusif dont Manjay Siranjamirsou, qui dirige l'entreprise sociale, est très fier.
Le système de rémunération d'une animatrice, c'est que Nutriza fournit la matière première, l'animatrice se met à cuire et distribuer. En plus d'avoir un salaire fixe qui est 1,4 fois supérieur au SMIC malgache, hein, 600 000 arrières mensuels. Lors de chaque tournée, elle a une survente qu'elle garde pour elle, que Nutriza ne comptabilise pas. On n'a jamais cessé de croître depuis 2020, au fait. Et d'ailleurs, en 2023, on a atteint un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, ce qui était du jamais vu. Et chaque année, normalement, Nutriza a fait une croissance d'environ 15%. Des fois, c'est 20.
Et des fois, c'est 5. L'année 2024 a en effet été très rude. Un ralentissement que l'entreprise attribue à la paupérisation de la population et à la baisse de son pouvoir d'achat. Toutefois, aux yeux du GRET, l'ONG à l'origine du développement de la recette de la farine fortifiée il y a 20 ans, Nutrizaz reste une success story et Claire Caboret, sa représentante à Madagascar, explique pourquoi.
Nutrizaz est totalement autonome financièrement, même si elle reçoit quelques subventions, notamment de l'AFD, pour lui permettre soit de tester des nouveaux produits, des nouveaux services ou d'étendre son réseau de distribution dans des nouveaux quartiers populaire. Ça demande un peu de moyens que Nutrizaz n'a pas, étant donné que les marges sont très réduites. Mais si demain la subvention s'arrête, Nutrizaz est rentable. Et donc c'est une success story dans le sens où Nutrizaz arrive à vendre une bouillie totalement équilibrée et aux normes internationales en termes de qualité, à des prix abordables parce qu'ils ont été formulés dans ce but vraiment qu'ils soient le moins cher possible pour les populations de ces quartiers-là.
Aujourd'hui, la production de ces produits est sous-traitée à des industriels partenaires. À terme, l'entreprise sociale aimerait acquérir sa propre unité de production afin de faciliter la recherche et le développement de nouveaux produits pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations vulnérables. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Incertitude sur le café. Et si les prix élevés finissaient par lasser, si le coût finissait par avoir raison de la tasse revigorante du matin à RFI? Je vous rassure, quand on travaille pour vous au milieu de la nuit française, il y a peu de chance, mais la filière café dans le monde, elle, s'en inquiète. Avec deux mots en tête, climat et Brésil, Marie-Pierre Olfant.
La grande inquiétude sur la production de café Robusta au Vietnam a été levée cet automne, mais cela n'a pas suffi à rassurer les opérateurs. Le marché a toujours besoin de la récolte d'Arabica du Brésil pour satisfaire la demande. Or, la sécheresse dramatique de la première moitié de 2024 peut encore avoir des conséquences cette année sur la production. Cette situation exceptionnelle a poussé d'ailleurs plusieurs maisons de négoce à faire des estimations précoces qui ont alimenté le stress plutôt que de calmer les esprits. La production 2025 d'Arabica chez le géant d'Amérique latine serait en baisse et comprise entre 34 et 42 millions de sacs de 60 kilos. Une fourchette encore très large, c'est ce que disent ceux qui préfèrent attendre courant février voire fin février pour avoir des informations de terrain plus représentatives. Les incertitudes de la filière sont aussi entretenues par un manque de visibilité sur les stocks. Le Brésil a exporté des volumes records l'année dernière, ce qui devrait en théorie se refléter dans le niveau des stocks et contribuer à une baisse des cours. Mais en Europe, l'état de ces réserves est rendu public avec beaucoup de retard et aux États-Unis, premier pays consommateur de café, aucun chiffre n'a été communiqué depuis 6 mois. Pour l'heure, l'horizon reste donc très incertain et l'approche des fêtes du nouvel an vietnamien n'arrange rien. Les producteurs de Robusta se sont mis en retrait, ce qui limite l'offre globale sur le marché. En attendant, les prix ont donc encore battu des records la semaine dernière et comme cela fait plusieurs mois qu'ils sont à un niveau élevé, l'industrie a répercuté ces hausses et cela pourrait encore se reproduire. Or, quand les prix grimpent trop, ils finissent par détruire la demande, autrement dit par décourager les acheteurs. Une mécanique annoncée qui, en retour, pourrait aider à faire baisser les prix. Mais dans quel délai, c'est une autre inconnue.
Et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. Merci Marie-Pierre Olfond. À 5 minutes du nouveau journal sur RFI, on rejoint nos confrères de La Première. Les conséquences du cyclone Chido, la grève de certains enseignants comme prévu. La rentrée scolaire n'a été que très partielle hier à Mayotte. Bonjour Tessa Gourman.
Bonjour, une rentrée scolaire en théorie pour tous les élèves de l'archipel 6 semaines après le passage du cyclone Chido. En réalité, 44 établissements sont restés fermés en raison des dommages occasionnés par le cyclone et d'autres n'ont pas pu accueillir les élèves en raison d'une grève des enseignants. Ceux-ci réclament des garanties sur la sécurité dans les collèges et lycées, une augmentation de l'indexation des salaires et une prime pour tous suite au passage de Chido. La réaction d'une enseignante gréviste.
On est en colère, mais on en est aussi très fatigué, en fait. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte que, après avoir subi un mois de survie, en fait, on a dû survivre. Et qui plus est, en fait, de reprendre dans des conditions où j'entends ma collègue qui va venir pour faire du 2 heures, ou d'autres collègues, en gros, finissent en rotation. Et que il y a aussi un manque de sécurité parce qu'il y a des fils électriques qui pendent et que on nous demande encore de faire un effort alors qu'on est déjà fatigué psychologiquement. C'est très dur à l'entendre, et qui plus est, le fait est que tout le monde n'a pas eu en fait cette prime. Nous, on pensait du fait est que on allait être ici et que on a tous subi le Chido, on a tous été sinistrés, on a tous subi le cyclone. Et de ne pas avoir cette prime-là, en fait, c'est comme si, en gros, nous, on était inexistants.
Et la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, confirme sa visite à Mayotte jeudi et vendredi prochain. À La Réunion, la rentrée a eu lieu la semaine dernière, mais des jeunes Mahorais qui ont quitté l'archipel après le passage de Chido attendent toujours d'être scolarisés. À Saint-Denis, la direction en charge de leur dossier dit qu'il faut un peu de temps pour trouver des solutions. Message entendu par Ali, père de 3 enfants, arrivé le 1er janvier à La Réunion.
Aujourd'hui, je suis venu ici pour inscrire le deuxième, sachant que le premier, on l'a inscrit au lycée. Il a eu la place, il a commencé aujourd'hui même, après 3 semaines d'attente. Aujourd'hui, on a commencé les démarches pour le deuxième qui va aller en grande section. C'est vrai qu'on attend beaucoup de choses, mais moi personnellement, j'en garde une expérience qui a été positive, puisque bon, même si on va l'inscrire qu'aujourd'hui, mais on espère que bientôt il aura une réponse.
Une baisse de 0,3% de chômeurs à La Réunion, c'est peu, mais c'est beaucoup mieux que les chiffres nationaux qui affichent 3,5% de chômeurs en plus sur un an. Pour la catégorie A, celle des demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité. On reste à La Réunion où des coupures d'eau sont annoncées dans plusieurs communes de l'est de l'île en raison de la sécheresse. Autre victime de cet épisode météorologique, les clubs de rafting et de canyoning. Sur la rivière des Marsouins, ils ne peuvent plus réaliser qu'une seule descente par jour. Et cela juste après le lâcher d'eau du barrage hydroélectrique de Takamaka. Reportage.
9h30 du matin, l'eau lâchée en amont par Takamaka alimente déjà la rivière des Marsouins. Le groupe de 13 canyonneurs a 2 heures pour en profiter. Pas une minute à perdre donc pour Tilman Bouvet, leur moniteur.
On est à 30 cm dans la rivière, donc les 20 cm que nous envoie EDF, le Takamaka, permettent de descendre toujours en frottant un peu les galets. Contrairement à l'année dernière, la même période, on naviguait avec quasiment 90 cm.
L'année dernière, Bellal avait permis d'atteindre un niveau d'eau constant dans la rivière jusqu'à 1,20 m. Depuis septembre, pas une goutte donc.
À les vacances scolaires, on a été obligé de s'adapter un peu au niveau d'eau. Au lieu de faire une descente le matin, une descente l'après-midi, on a dû faire qu'une descente dans la journée.
L'eau deviendrait même conflictuelle pour la poursuite de son activité.
Entre l'eau qui manque dans l'Est, l'eau qui est captée dans l'Est pour aller dans l'Ouest, les coupures d'eau à Salazy, à Saint-André, il ne faut pas non plus tout mélanger. Nous, on est sur une eau qui est non potable.
L'eau qui est faite uniquement
pour produire de l'électricité.
Et les canyonneurs ne sont pas insensibles à cette problématique, comme Patrick Grondin, 51 ans.
En fait, vous pouvez le lendemain d'un cyclone. Là, on voit le niveau avant la V2.
Certains de ces clubs de glisse tentent de négocier auprès d'EDF et de l'île de la Réunion Tourisme d'avoir dorénavant avant 2 petits lâchers d'eau au quotidien contre un seul et unique le matin actuellement.
Un reportage de Nina Santi, Réunion la première. Bonne journée.
Merci Tessa, bonne journée à vous. La situation dans l'Est de la RDC, on continue de la suivre ce matin sur RFI. Dans le prochain journal, dans 1 minute 30, le sommet de l'EAC, l'East African Community, annoncé pour demain. William Ruto, le président kényan, en a parlé hier. On sera à Nairobi donc dans 2-3 minutes. Dans une demi-heure, prochaine édition africaine sur RFI. Nous serons à la frontière entre le Rwanda et la RDC, à Gisenyi notamment. RFI également à Bukavu, où il y a eu une manifestation hier. Les populations contre l'action du Rwanda appellent à la communauté internationale. La communauté internationale, justement, RFI à Washington également dans une demi-heure. Le chef de la diplomatie américaine qui critique le M23. Restez avec nous, l'info continue.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Recueillir les paroles des derniers survivants, derniers visages de la Shoah, pour dire l'horreur d'Auschwitz et tenter de l'expliquer. Pourquoi ? Interroge le documentariste Jean-Marie Montali. Il sera notre invité aux côtés de David Teboul qui publie « Les filles de Birkenau ».
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions.
Thomas de Saint-Léger.
Dernière journée de la phase de groupe, dernier billet pour la suite du voyage. 18 matchs en simultané, 2 en intégralité. Stuttgart-PSG, un nul suffit à Paris, mais attention à ne pas se perdre en calcul. Et Brest-Real Madrid affiche de galère.